Votre coach chez vous, une chronique proposée par Christine Huchette.
Nous sommes donc aujourd'hui en compagnie de Christine Huchette pour poursuivre nos réflexions autour de l'affirmation de soi. Nous allons aujourd'hui particulièrement parler de l'anxiété sociale plus spécifiquement. Christine Huchette, bonjour.
Bonjour Fabrice.
Alors, nous avons donné un certain nombre de définitions. La dernière fois que nous nous sommes vus, nous avions parlé d'estime de soi, de confiance en soi, d'affirmation donc de soi, de charisme même. Quel est le lien entre ces différents éléments et la notion d'anxiété sociale?
Alors, l'anxiété sociale, moi, je la rapproche plus précisément de l'affirmation de soi. Donc, je pense que je voudrais qu'on reste aujourd'hui, si c'est possible, plutôt dans ce domaine de l'affirmation de soi qui, justement, peut être développé. C'est-à-dire qu'on a des outils pour aider les personnes qui sont très timides, qui sont très en retrait, pour les aider à pouvoir aller rencontrer les autres et puis ne pas être traumatisés quand il s'agit d'être dans un groupe et non pas être en retrait, mais de participer à la vie du groupe.
Vous voulez dire par là que l'anxiété, c'est quelque chose qui nous empêche de nous affirmer ?
Oui, tout à fait. L'anxiété, c'est une sensation, hein, c'est-à-dire c'est la sensation de ne pas être à la hauteur. C'est la sensation que ce que l'on va dire ne va pas être intéressant et que, de ce fait, on va être critiqué. Donc l'anxiété va être alimentée par la crainte du jugement des autres et aussi, dans un premier temps, par la crainte de la réaction de l'autre. Donc si nous sommes dans cet état-là, si nous sommes très anxieux à l'idée d'être critiqués, à l'idée de ne pas être à la hauteur, eh bien, il y a peut-être aussi des personnes autour de nous qui en profiteront pour justement se moquer. Voilà, donc en fait, c'est aussi quelque chose qui s'auto-alimente, c'est-à-dire on a peur que l'on se moque de nous et notre attitude va alimenter la possibilité que quelqu'un se moque de nous.
Est-ce que justement le regard des autres n'est pas quelque chose d'absolument essentiel dans nos relations sociales? Il suffit d'aller sur Internet pour voir que constamment, c'est sur ce plan-là que se situent les débats, en tout cas régulièrement.
Oui, parce que nous, les êtres humains, nous sommes des animaux un peu particuliers, puisque à la fois, on souhaite être seul, hein, on pense l'enfer, c'est les autres, et puis en même temps, on ne peut pas se passer des autres. Alors effectivement, quand on n'est pas à l'aise avec la société, eh bien, c'est embêtant, parce que nous ne pouvons pas vivre seuls, nous avons besoin des autres. En fait, c'est la discussion avec les autres, c'est les critiques, c'est la pensée, enfin, tout ce développement que nous avons, nous, en tant qu'êtres humains, eh bien, il est venu justement par la confrontation avec les autres. Nous avons une pensée parce que, quelque part, nous pouvons échanger avec quelqu'un d'autre.
Et oui, et c'est important d'échanger.
Tout à
fait.
C'est
ce que nous faisons en ce moment. Qu'est-ce qui fait que cette anxiété, donc on l'a un peu expliqué, elle apparaît et qu'elle prend de la place et du coup génère des distorsions dans les relations que nous avons les uns avec les autres?
Alors, si on fait un petit peu le retour avec ce que j'avais expliqué avec le stress, hein, c'est que stress et anxiété, bien sûr, sont liés et sont liés avec les émotions. Pourquoi je serais plus anxieuse dans une situation que dans une autre, ça, c'est plus compliqué à développer et à savoir. Mais en tout cas, quand je suis anxieuse, ce qui est certain, c'est que l'émotion de la peur va apparaître très rapidement avec tout ce qui est lié à la peur et souvent ce qu'on appelle donc la perte de nos moyens. Donc, cela veut dire que je vais générer des comportements qui sont liés à cette émotion et probablement des comportements inappropriés. Restons sur des choses très très simples. Par exemple, vous avez un acheteur et vous-même. Vous êtes, soi-disant, l'acquéreur potentiel. Vous ne souhaitez pas du tout que la personne revienne vous voir ou revienne vous proposer cette jolie voiture parce que de toute façon, vous n'en avez pas les moyens. C'est pas non plus peut-être la cylindrée que vous souhaitiez ou ce n'est pas la marque que vous aviez en tête d'acheter. Mais vous mettez dans la tête que si jamais vous dites d'une manière un petit peu trop affirmative, non merci, merci, ce n'est pas la peine de revenir, je n'achèterai pas cette voiture-là. Si vous vous dites, oh là là, mais si je dis ça, je ne vais pas être sympa, le vendeur va dire que quand même j'exagère.
Je vais être mal vu.
Voilà, il s'est déplacé, je me suis déplacée, j'exagère, etc. Vous vous dites toutes ces choses-là à l'intérieur de vous-même, eh bien vous n'allez pas être capable de dire non, merci, je n'achèterai pas votre voiture. Alors vous allez déplacer le problème et vous allez peut-être dire, écoutez, c'est intéressant, mais je vais réfléchir, avec tellement un manque d'assurance que le vendeur va peut-être entendre, il n'est pas intéressé par ma voiture, mais il va peut-être aussi se dire, mais si je pousse un peu, peut-être que j'arriverai quand même à le décider. Et donc le vendeur ne va pas forcément entendre, non, je ne suis pas intéressé, il se peut qu'il entende, ah, je l'ai un petit peu convaincu. Et donc, il suffit que je revienne une deuxième fois et je pourrai lui vendre ma voiture. Mmh. Voilà. Donc, la peur de ce qu'on pourrait penser de vous ou la peur de la représentation que l'on a va nous obliger à communiquer d'une manière très incertaine, très imprécise. Et c'est à ce moment-là que les choses se gâtent, parce que on se prend les pieds dans le tapis, quoi, parce qu'on n'arrive pas à dire non, ou alors on va finir par le dire d'une manière très désagréable, et on sera très très mal avec soi-même.
Comment faire pour dire les choses de façon claire, sans exploser, sans non plus risquer pour soi-même, parce que quelque part j'entends au travers de « je vais réfléchir », on cherche à éviter, à louvoyer, pour que tout se passe bien.
Voilà, bah écoutez, l'idée, c'est ce que vous dites, hein, c'est que si vous n'avez vraiment pas envie de cette voiture, le mieux est d'être capable de le dire, d'accord ? Alors, comment être capable de le dire ? Bah déjà, en luttant contre les émotions, et pour cela, on en avait parlé dans d'autres émissions, bien sûr, on peut faire appel à la respiration, on peut faire appel à la prise de recul, on peut se dire qu'il n'y a pas péril dans la demeure, que c'est le travail d'un vendeur de venir, de présenter son produit, de repartir, que le vendeur ne réussit pas à chaque fois, sinon il serait milliardaire. Donc tout ça, en fait, avec du recul et du bon sens, on peut arriver à communiquer et se dire bah, « je vais simplement dire non merci ». Donc ça, c'est une première chose. La communication passe aussi, pas seulement par ce que vous allez dire, mais la manière dont vous allez le dire. Et donc, effectivement, l'affirmation de soi va passer par votre posture, votre capacité à communiquer de manière non-verbale avec votre interlocuteur. Si vous lui dites « je vais réfléchir en baissant les yeux, en croisant les mains et en vous faisant tout petit ben », vous ne renvoyez pas une certaine affirmation qui dit « non, merci, je n'en veux pas ». Vous vous dites bah, « écoutez, je ne sais pas », enfin, c'est l'hésitation. Donc, la communication non-verbale est très importante aussi. Et lors d'ateliers sur l'affirmation de soi, on travaille énormément à partir d'improvisation, de théâtre, de mise en scène, de mise en situation, cette communication non-verbale. Donc être capable de regarder la personne sans la foudroyer des yeux, mais avec un regard bienveillant, mais sûr de soi. Voilà. Donc en fait, un peu la main de fer dans le grand velours aussi, si vous le souhaitez. Donc il y aura la manière dont vous allez regarder la personne, il y aura votre ton de voix. Ben, si vous ne voulez pas que votre voix soit toute tremblotante parce que vous avez très peur, eh bien, vous respirez et à ce moment-là, vous pouvez parler normalement. Il y aura votre posture et puis il y aura peut-être la distance que vous mettrez avec, si on reprend notre exemple de vendeur, voilà, vous avez intérêt à avoir une distance suffisamment grande avec un vendeur pour lui montrer que pour le moment, rien n'est fait.
Au travers de ce que vous dites, j'ai aussi l'impression qu'il vaut mieux y réfléchir à deux fois avant d'entrer dans un magasin.
Alors, oui,
ça, c'est une plaisanterie en passant. Hein.
Mais c'est une plaisanterie qui a son fond de vérité. Hein. Peut-être d'ailleurs, c'est pour ça qu'on achète énormément par Internet aujourd'hui. Hein. C'est peut-être pour ne pas devoir affronter le vendeur en question. Mais c'est vrai que les personnes qui n'ont pas confiance en elles vont prendre moins de plaisir, on dira, à peut-être aller acheter quelque chose de peur de se sentir obligée d'acheter ce qu'elles ne voudraient pas.
Christine Huchette, vous parliez de la gestion des émotions. Alors, vous avez presque dit qu'il fallait les refouler. Est-ce que ça signifie que les émotions sont négatives, enfin sont mauvaises, je ne sais pas comment il faut dire là, les qualifier, ou est-ce que ça signifie plutôt qu'il est nécessaire de bien les repérer pour les utiliser à bon escient ?
Alors non, elles ne sont pas mauvaises, et ça dépend lesquelles, notez bien. Hein. Je pense que l'émotion de la peur, alors bien sûr, non, finalement, elle n'est pas mauvaise, puisqu'il s'agit certaines fois probablement d'avoir peur et d'entendre cette peur et de se sauver si on est dans une situation dangereuse. Donc, refouler parce qu'elles ne sont pas à leur place, c'est ce que je voulais dire. De la même manière, hein, trop d'enthousiasme peut vous créer des ennuis. Moi, si je parle encore une fois, par exemple, dans le monde de l'entreprise, j'accompagne un certain nombre de dirigeants qui n'ont pas toujours les collaborateurs qu'ils souhaitaient parce que lors de l'entretien de recrutement, il y a eu beaucoup d'enthousiasme et peu de recul. Donc finalement, ce sont des personnes très intéressantes, très agréables, mais qui n'avaient pas forcément les compétences dont l'entreprise avait besoin. Alors quand je parle de refouler les émotions, qu'elles soient sympas comme la joie, l'enthousiasme, ou plus compliquées comme la colère ou la peur, quand je parle de refouler, c'est essentiellement quand on détecte qu'elles ne sont pas à leur place et qu'elles vont plutôt nous empêcher de réfléchir et de prendre du recul que plutôt nous donner le bon comportement.
Vous avez évoqué à plusieurs reprises, hein, on a développé avec vous d'ailleurs cela, la question de la distorsion. Cette distorsion, elle se situe à quel endroit ? Chez l'émetteur, j'aurais envie de dire, pour prendre une analogie qui se rapporte peut-être à la radio en particulier. Est-ce que c'est l'émetteur qui envoie un signal distordu ? C'est ce que vous sembliez exprimer au travers du « je vais réfléchir plutôt que non ». Ou est-ce qu'elle peut être aussi cette distorsion du côté du récepteur qui observe mal, qui comprend mal ce qui lui est dit?
Alors effectivement, en communication, on reprend souvent cette image de émetteur et récepteur. Et là, je vais mettre tout le monde d'accord, puisqu'en fait, la distorsion, elle est à la fois chez l'émetteur et chez le récepteur. C'est-à-dire que l'émetteur, comme le récepteur, a ses propres filtres et génère un peu de bruit sur la ligne. Donc, je pense que votre pensée, justement, mis à la sauce des émotions, va peut-être pas s'exprimer aussi clairement que ce qu'elle est. C'est-à-dire ce que vous allez entendre quand vous allez écouter ce que vous êtes en train de dire, peut-être que ce ne sera pas exactement ce que vous pensiez dire. Donc c'est là où il y a effectivement distorsion. Et de la même manière, le récepteur va d'abord essayer d'entendre ce qu'il a envie d'entendre. Voilà, donc il va essayer de chercher dans ce que vous dites des phrases ou des mots qui correspondent à ce qu'il aurait souhaité entendre. Et puis, si ce n'est pas tout à fait ce qu'il voulait entendre, il va essayer de les arranger de manière à ce que ça se rapproche le plus près de ce qu'il aurait voulu entendre, ce qu'il s'attendait à entendre. Et puis, quand il est obligé de se rendre compte que c'est ni l'un ni l'autre, il va être enfin à l'écoute de ce qui a vraiment été dit. Mais tout ça, ça demande un peu de temps.
Alors, il me semble que vous travaillez beaucoup dans le cadre du coaching sur cette question de la distorsion. On ne va pas avoir le temps d'approfondir aujourd'hui, mais je vous propose d'y revenir dans notre prochaine émission de manière à voir comment on peut améliorer ce système de communication pour qu'il y ait de moins en moins de distorsion, là encore.
Tout à fait, avec plaisir.
Merci Christine, et donc à très bientôt.
À très bientôt Fabrice.
C'était Votre coach chez vous, une chronique proposée par Christine Huchette.